De mon enfance, dont j'ai peu de souvenirs nets, j'ai surtout gardé des sensations. Et celle qui domine toutes les autres est ce sentiment de l'implicite, de l'indiscernable, d'un impérieux silence entendu. C'est une atmosphère où ce qui ne se dit pas et ce qui ne se voit pas compte beaucoup plus que la parole ou le geste, toujours mesuré, compté, théâtralisé. Les règles élémentaires de la politesse s'assimilent vite. Ne mets pas les coudes sur la table, dis bonjour à la dame, ne marche pas les mains dans les poches, remercie le monsieur. Elles sont les mêmes partout. C'est tout le reste, qu'on appelle parfois savoir-vivre, qui est plus long et subtil à saisir. Il n'y a pas de manuel, pas d'instruction, ni même de secret. Tout repose sur l'observation de scènes si composées qu'elles auront l'air naturelles et dont seul compte la réussite formelle, l'effet. Dès le plus jeune âge, j'ai pris l'habitude, à la fois inconsciente et suggérée, de détecter et d'interpréter les indices tacites qui forment l'équilibre des situations en société. Personne ne me les a appris ni expliqués, même si tout le monde s'attendait à ce que je les repère et les enregistre. Demande-t-on aux animaux comment ils ont assimilé les lois de la jungle ? Il s'agit de sentir comment se crée ou se défait une ambiance, de pénétrer l'art de relancer une conversation ou d'en dévier le sujet d'un mot. Cet entraînement muet, qui consiste à écouter et regarder, à lire les visages et à humer les climats, à imiter et répéter sans consigne, a forgé en moi une conviction profonde qui est peut-être au fondement de n'importe quelle éducation, ce qui se transmet vraiment ne s'enseigne pas. Et cela peut être superlativement dans l'aristocratie. Tout se joue entre les lignes, à capter, surprendre, intercepter les signes subliminaux de l'effacement, dans une vie où tout effort doit être radié, toute passion dissimulée, toute souffrance tue, selon une orthopédie mentale aux règles non écrites. On ne parle jamais de soi, on ne fait pas de vagues, on évite les sujets qui fâchent car c'est assommant et il est impensable de montrer quelque émotion en public. La joie et la peine, l'excitation et la douleur, l'enthousiasme et la mélancolie sont affaires de classe. On ne pleure pas comme une domestique, répétait mon arrière-grand-mère, que la haine de l'effusion avait poussé à donner un bal à la mort d'un de ses fils, engagé volontaire tombé pour la France en 1916, à l'aube de son 20e anniversaire. Caricatural, ce sinistre exemple pourrait presque avoir valeur de principe dans la nécessité à convertir tout mouvement sensible, jusqu'à la plus intime catastrophe, en exercice de style. Un monde où tout se tient et où tout le monde se tient. Tenir, tenir son rang, c'est le verbe étalon qui s'applique à la langue, à laquelle on demande d'abord de la tenue, comme on est censé savoir tenir son cheval. Se tenir, le regard fixé sur l'horizon immuable des rituels, a une vertu majeure. S'abstenir de penser. Mal se tenir, au propre comme au figuré, confine au sacrilège. Combien de fois n'ai-je pas obéi à ce rappel à l'ordre, traduit par un regard noir qui se passait de commentaires, « Tiens-toi ». Comprendre, tiens-toi droite et reste à ta place, comme une table bien dressée où l'on évitera de mettre les coudes à côté de couverts équidistants. Cette technique du corps et du maintien postural exige à mots couverts un peu plus que de la tenue, de la retenue, voire de la rétention, jusqu'à de la réticence à se mêler au monde extérieur. C'est une mécanique des comportements dont la pratique est fondée sur le refoulement. La notion de style, si primordiale, si viscérale, se confond volontiers avec un attachement maniaque à la langue. Les inflexions de la voix, une rythmique passablement théâtrale de la phrase, à la fois aérienne et énergique, virevoltante et nette, un ton frisant la rodomontade, trahiront d'emblée l'aristocrate. Cette musicalité un peu nerveuse, faite d'accélération et de lenteurs étudiées pour conduire le plus sûrement à la chute, convient au mot d'esprit et à l'art de la conversation, où il est déconseillé de s'apesantir. Rien n'est plus déplacé que de développer une idée ou de se lancer dans une réflexion un tant soit peu élaborée. glissé mortel, n'appuyez pas. Les aristocrates se piquent d'être littéraires parce qu'ils parlent bien, c'est-à-dire plus ou moins correctement, même s'ils n'ont rien à dire, et révèlent leur goût très sûr pour la peinture en s'extasiant devant les portraits au pastel qui rendent des expressions si vraies. Ils vénèrent sans distinction Saint-Simon et Winterhalter pour une raison commune. L'immense styliste et le peintre pompier leur promettent secrètement l'immortalité à travers des pages inoubliables dont ils sont l'objet presque exclusif ou des chromos flattant leur grandeur. À la recherche du temps perdu, deviendra avec le temps ce même miroir aux alouettes. Avec la célébrité, Proust, journaliste hier tout juste adoubé, deviendra celui qui n'aurait rien accompli si les nobles ne s'étaient pas prêtés de si bonne grâce à devenir sa source d'inspiration. Cependant, tel un tableau du grand siècle descendu des cimaises d'un musée consacré à la peinture d'histoire, et dont seul le vernis serait demeuré, ce vernis qui tient et durcit avec le temps, le monde si composé de la noblesse masque mal la réalité affleurant sous la couche superficielle et brillante. Cette réalité, c'est le vide. L'aristocratie, royaume du signifiant pur et de la performance sans objet, est un monde de formes vides. Voilà, mise à nu, son âme, comme on dit de la cavité intérieure des canons et des fusils, où se place le projectile. Seuls les fusils ont des âmes, ironisait Camus. La forme superlative, presque excessive, du protocole et des coutumes n'assume pas seulement le vide sidéral du fond. La véritable vocation de la stylistique aristocratique consiste à convaincre les autres de la légitimité d'un pouvoir intact, comme si la Révolution française n'avait jamais eu lieu, et de justifier le forfait du privilège. Privilegium ou privata lex, la loi privée, l'exception juridique accordée à une élite, dans un système où la naissance fonde les inégalités. Sauf que cette élite, défaite après la guerre de 14, et c'est l'un des thèmes majeurs de la recherche du temps perdu, n'a plus rien aujourd'hui à offrir que des titres désuets et un blason qui s'étiole. Sans l'argent qui autorise le maintien d'un patrimoine et d'un mode de vie somptueux, l'aristocratie n'est rien. Rien qui danse sur du vide. Mon ambivalence vis-à-vis de l'éducation aristocratique se noue à cette intersection entre un objet d'angoisse, le vide, et un objet de jouissance, la danse. Car comment ne pas être sensible aussi à la singularité de tour des grandes manières, à la grâce recherchée au fondement de tout geste? La chorégraphie aristocratique, qui dicte et enrobe tout, les actions et les pensées, les comportements et les discours, les conversations futiles et les décisions morales, enveloppe la vie d'une esthétique parfois si séduisante qu'on pourrait la croire fondée. Mais la vanité de la vie de cour à Versailles a lentement corrompu un idéal basé à l'origine sur le sens de l'honneur en renforçant les lois de l'étiquette, de la bienséance et des convenances. Si bien qu'au XIXe siècle, Madame de Boigne, déplorant la disparition des codes aristocratiques, regrettait ces formes qui donnaient un vernis de grâce à l'immoralité. Dès lors, l'hiatus ne fera que se creuser, au point que Proust peut écrire de Madame de Marsante, sœur du duc de Guermantes, « Par atavisme, son âme était remplie par la frivolité des existences de cour, avec tout ce qu'elles ont de superficiel et de rigoureux. » Je crois que très tôt, j'ai été particulièrement réceptive à cette puissance formelle, rythmique, qui bâtit autour de soi un monde sans rupture et sans effort apparent, où l'art de la transition invisible s'applique jusque dans la mort, où l'attention au maître, à la mesure, à la cadence, assure l'enchaînement musical.